Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Cube Radio.
Dure semaine pour plusieurs joueurs de la NFL qui remplissent la liste des blessés. Une pénalité pour avoir provoqué l'adversaire. La nouvelle controverse dans la NFL. C'est déjà l'heure d'allumer des lampions pour certaines équipes. Quelle équipe avec une fiche de 0-2 peut encore aspirer aux séries? Pas souvent qu'on entend ça, mais Matthew Stafford et son équipe sont toujours invaincus. Est-ce qu'ils seront toujours invaincus après la fin de semaine alors qu'ils affrontent Tom Brady? Tout cela et bien plus dans cette nouvelle émission de La Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue à La Zone Payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, je suis en compagnie de mes experts et journalistes au Journal de Québec et de Montréal, Jean Carrier et Stéphane Cadorette. Salut les gars!
Salut, ça va bien?
Yes, ça va bien. Salut les gars. Écoutez, cette semaine, plusieurs équipes ont vu, pour certaines, leur saison balancée, d'autres balancée dans du mauvais côté de la traque parce que certains de leurs joueurs vedettes sont blessés. Qui vous avez retenu cette semaine avec une blessure importante aurait changé le cours de la saison d'une équipe?
Ben, le premier exemple qui me vient en tête, moi, c'est, il y a plusieurs corps arrière, premièrement, là, qui sont tombés, là. J'espère pas en oublier, mais Tua avec les Dolphins, Tyrod Taylor avec les Texans, Andy Dalton avec les Bears, Carson Wentz avec les Colts. Pour moi, l'exemple le plus frappant là-dedans, ben, c'est Wentz. Pas parce que c'est le meilleur de la gang, mais parce que les Colts, je trouve, ont des espoirs légitimes de série. Les Dolphins aussi. Mais toi, on parle d'une blessure qui serait finalement moins grave que prévu au départ. Là, on dit que il y a même une possibilité qu'il joue cette semaine. C'est pour ça là, que je parle d'un impact peut-être plus grand pour les Colts avec Carson Wentz. On parle des deux chevilles blessées sur un même jeu. Ça, c'est pas chic, là. Puis Carson Wentz, ben écoute, c'est l'histoire, c'est que tu tombes avec Jacob Eason, un joueur qui a aucunement fait ses preuves comme corps arrière des Colts. Si Wentz doit rater une période prolongée, là, ça pourrait faire très, très mal, surtout que l'équipe, en partant, est 0-2 là, jusqu'à maintenant. Donc, ça peut faire très mal. Beaucoup d'autres blessures ailleurs, là, tu sais, sur des joueurs importants. Je pense au champ arrière des Niners. Les quatre premiers porteurs de ballon sont blessés actuellement. Tu sais, à un moment donné, Kyle Shanahan, c'est comme son père, il s'est fait une spécialité d'insérer n'importe quel porteur de ballon dans l'alignement puis lui faire connaître du succès. Mais jusqu'à quel point ça peut fonctionner là, quand t'es rendu à ton cinquième porteur de ballon? On parle d'amener Lamar Miller là, à San Francisco en ce moment. C'est pas une solution nécessairement gagnante, là.
Jean, de ton côté, quelles blessures t'ont marqué en fin de semaine?
Moi, celle de Carson Wentz est marquante aussi. Des aspects différents aussi de Steph. C'est que moi, je vois l'investissement que les Colts ont fait en Wentz. Tu sais, ils l'ont sorti de Philadelphie. Ils ont dit, t'es notre homme. On va te remettre avec Frank Reich. Évidemment, ça part tout croche. Le camp d'entraînement, parce que là, il est blessé au pied. Miraculeusement, il revient pour la saison régulière. Puis là, ben, une autre blessure, ça part pas bien. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est négatif pour moi. C'était là, je pense, cette année, Carson Wentz, pour lui redonner confiance en lui. Puis là, c'est vraiment parti tout croche. Donc, on va commencer à se poser des questions. Puis, comme Stéphane l'a dit, avec le substitut. Est-ce qu'il va faire assez pour que quand Wentz va revenir, ce club-là va être bien positionné? Ça, c'est une autre question qu'il faut se demander. Écoute, on va suivre la suite des choses. Pour les Niners, à un moment donné, ça commence à être un peu trop aussi. Des fois, j'ai l'impression que dans la NFL, tu dis, ah, des porteurs, il y en a tout le temps, tu bottes une poubelle, puis il en sort trois. C'est pas exactement ça non plus. Puis à un moment donné, ben il va manquer un petit peu de talent à cette position-là. Puis c'est une position qui demeure importante pour les Niners.
Ouais.
C'est ça qui parce que ils ont investi beaucoup dans leur ligne en attaque, puis dans leur système de jeu, ils ont besoin que le jeu au sol soit efficace. Si t'as pas de chevaux, ben c'est sûr que ça devient plus difficile. Donc c'est une situation qu'il faut sortir de près. Puis Jeff Wilson, qui est probablement leur meilleur porteur qui reste. Il sera pas là avant novembre de ce que je lisais là.
Donc, et puis Jean, oui du côté de l'offensive, mais il y a des joueurs en défensive aussi qui sont blessés. Ah oui.
TJ Watt, ça surveillait du côté des Steelers, mais ouais. Les nouvelles semblent quand même rassurantes. Il pourrait être en uniforme techniquement là, contre les Bengals dimanche. C'est pas mal le plus gros nom qui est ressorti, mais tu sais t'en as d'autres. Là. Moi je pense à Denver, Bradley Chubb. C'est bizarre ce qui se passe à Denver parce que quand Bradley Chubb est là, Von Miller est blessé. Exact. Là, Von Miller revient, il connaît un super bon début de saison. Bradley Chubb se blesse. On a investi énormément là au repêchage à travers ces deux gars-là pour former un tandem de feu chez les Broncos. Puis finalement, ils seront jamais ensemble sur le terrain. Il y a un mauvais sort, on dirait.
Ouais,
donc c'est ça, pas, c'est une blessure qui a passé un petit peu sous silence, mais qui pourrait laisser des traces chez les Broncos.
C'est pas un problème d'architecture parce que quand tu regardes La pensée derrière tout ça, c'était génial. Là. On va avoir un monstre à deux têtes au niveau des chasseurs de corps. Puis effectivement, ça se matérialise jamais parce qu'il y a tout le temps des blessures à un des deux gars. Donc c'est ça aussi, ça fait très mal.
Je pense que l'autre blessure qu'il faut pas oublier chez les receveurs de passe, Jarvis Landry chez les Browns, tu avais déjà Beckham qui était pas là. Il peut revenir d'une semaine à l'autre, mais c'est une déchirure du ligament croisé antérieur en novembre, je pense, l'année passée, Beckham. Ouais. Ce qui fait en sorte que est-ce qu'il va revenir à son plein niveau là, on le sait jamais ces blessures là. Puis là tu perds Landry qui est une excellente valve de secours pour Baker Mayfield. Tu sais, il va courir tous les genres de tracés, un receveur très physique. Ça peut là aussi se faire mal à l'attaque des.
Il peut même faire des courses. Puis Anthony Walker aussi, Jean là, qui est quand même un peu le capitaine de la défensive des Browns qui est blessé pour quelques matchs.
Quelques matchs. Je dirais pas que c'est le capitaine. Mais il est important, il n'y a aucun doute. Là, il a son impact là, dans l'unité défensive. Pour ce qui est de OBJ, c'est un bon point aussi parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en a plusieurs qui voulaient l'échanger. Il ne sert plus à rien, ils ont bien fait sans lui l'an passé. Landry se blesse et là, tout à coup, il devient plus qu'une... Là, tout le monde est content qu'il soit là. Puis là, on voit je pense, toute l'intelligence DG des Browns qui a dit non, on va le garder, il va revenir, il est important, puis c'est un outil de plus. Pour ça, dans la NFL, c'est important de pas avoir juste un ou deux joueurs que tu peux te fier dessus. Plus t'en as des menaces offensives, mieux c'est. Puis on le voit dans le cas des Browns, ils ont une certaine profondeur quand même à ce niveau-là, avec OBJ qui risque de revenir quand même assez tôt pour faire remplacer Landry.
Et en terminant, les gars, l'équipe qui a le plus de joueurs sur le injury reserve de la ligue, ce sont les Ravens de Baltimore. Savez-vous combien de joueurs ils ont blessés sur la liste de réserve?
On t'écoute.
15.
Wow, ça commence à faire mal ça aussi.
Ouais, 15 joueurs. Chris Westry.
Leur champ arrière, ça a fait mal aussi.
Ouais, exact. Ok, on fait une pause les gars et après, ce sont nos 4 essais. Du jour. On commençait avec nos 3 premiers essais, entre autres les punitions pour provocation. On va en parler après la pause. Restez là.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Here comes first down! Here it comes first down, says Red Cashin.
On est à la zone payante en compagnie de John Colagagné, de Jean Carrier et de Stéphane Cadorette. Messieurs, c'est le temps pour notre premier essai, si vous le voulez bien. Débutons avec toi, Jean, tiens, ou avec Stéphane plutôt. Les équipes qui sont aucune victoire, 2 défaites, là, c'est le moment de l'année, là tout le monde là, regarde les statistiques, là. Bon, combien d'équipes depuis le début de la saison en 0-2? Puis de ces équipes-là, qui a la chance de faire les séries malgré un départ plus difficile? plusieurs équipes sont 0-2, puis on dirait qu'il n'y en a pas tant que ça qu'on voit remporter une place dans les séries. On dirait que les seules que je vois, c'est les Vikings. Moi, je ne sais pas de ton bord, c'est qui?
Écoute, juste pour faire le décompte. Non, je sais là, que ce serait pas ton genre, là, mais écoute, c'est tout à fait logique parce que ce que tu dis, les Vikings, là, quand on regarde ça comme il faut, sont 0-2 puis sont à deux jeux d'être 2-0. Le botté en prolongation contre les Bengals et le botté raté la semaine passée contre les Cards, un botté ridicule de 37 verges. Donc, t'es pas loin d'être à 2-0 puis très confortable là, ce matin, mais non, t'es 0-2. Donc oui, c'est un bon choix pour rebondir, sait-on jamais. Le décompte des équipes à 0-2 en ce moment, les Jets, pas grand-chance. Les Jaguars, pas grand-chance. Les Colts, avec la blessure à Wentz, faudra voir. Ils jouent dans une division faible, mais j'ai regardé, ils ont un calendrier très difficile. Je pourrais te donner un peu plus de détails après. Après, les Vikings, les Giants, les Lions, les Falcons. Il n'y a pas grand monde là-dedans qui est surdoué, disons-le comme ça. Puis pour donner une idée, parce qu'il y a beaucoup de fans de ces équipes-là qui se demandent, coudon, est-ce qu'on a quand même des chances à 0-2? Historiquement, là, depuis 1990, il y a 30 équipes sur 258 qui ont débuté la saison avec une fiche de 0-2 qui ont fait les séries. Ça te donne un pourcentage de 11,6. 11,6%.
Ah, pas plus que ça? 30 sur
250? Non, c'est vraiment difficile. C'est une pente qui est dure à remonter. Ça a l'air facile comme ça. 0-2. Ouais, il y a 17 matchs. On a encore du temps. Pas si facile que ça. Là-dessus, sur les 30 qui ont fait les séries, il y en a seulement 15 qui ont finalement remporté leur division. Donc, 5,8%. Puis, pour ceux qui se posent la question, dans les deux dernières années, il n'y en a aucune équipe qui a commencé à 0-2 puis qui a fait les séries. Donc, comme je le disais, une bonne pente à remonter. Tu sais, du côté des Vikings, puisqu'on en parlait à l'instant, il y a toutes les équipes dans la division qui ont déjà au moins une défaite. Donc, c'est pas comme si la division était partie en feu là, puis qu'il n'y avait personne d'arrêtable. Comme je le disais, sont à deux jeux d'être 2-0. Mais les Vikings, là, attention, ils pourraient vite tomber à 0-4. Ça, ça fait mal. Là. Les deux prochains matchs, ils jouent contre Seattle et Cleveland. Hey, c'est loin d'être des parties données. J'aurais tendance à favoriser l'adversaire vite comme ça dans ces deux parties-là. S'ils se retrouvent à 0-4, là, écoute, ça va commencer à paniquer là-bas. On va vouloir la tête de Mike Zimmer. Ça sera plus drôle. Ça va devenir un mélodrame de semaine en semaine. Donc, faut absolument qu'ils gagnent l'un de leurs deux prochains matchs à la maison, au moins. Les Colts, écoute, tu joues dans une division qui a les Jaguars et les Texans, ça te fait presque, même s'il n'y a pas de victoire donnée dans la NFL, ça te fait quand même un espoir de 4 victoires, disons-le comme ça. Là. Mais tu regardes dans leur calendrier, bon, ils affrontent deux fois les Titans, là, dont une fois cette semaine, les Niners, les Bills, les Buccaneers, les Patriots, les Cardinals, les Raiders. C'est un gros calendrier qui attend les Colts. Faut que Wentz non seulement revienne au plus vite, mais qui montre qu'il est capable de rester en santé, puis qui montre qu'il est capable aussi de bien performer. Jusqu'à maintenant, il jouait pas mal, Carson Wentz, mais ça continue d'être la même histoire. Il se fait frapper à répétition. Il trouve pas le moyen d'éviter les contacts. T'sais, il se protège mal lui-même, en plus de sa ligne, justement, là, qui joue pas très bien. Donc, c'est pas évident. Moi, cette année, personnellement, si j'avais à statuer aujourd'hui, j'en vois pas d'équipe à 0-2.
Est-ce que tu sais ce qu'on dit à propos des blessures dans la NFL? On dit qu'il y a un joueur dans la NFL qui se blesse en moyenne à tous les 12 snaps, et ce joueur-là, c'est Carson Wentz.
Oh boy! Ouais, c'est pas un... Il y a eu des malchances là-dedans, mais honnêtement, là, il est en train de démontrer, malheureusement, puis il fait toujours bien pas exprès, le pauvre Carson Wentz, mais il est en train de démontrer que son corps est de plus en plus fragile. Quand ça se met à tomber en ruine, c'est dur de recoller.
Oh, on peut en parler longtemps, ça.
Et les Giants, les gars, tu sais, c'est pas vrai que la NFC East est pas ouverte pour tout le monde. C'est probable un des moins bons clubs. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais le fait qu'ils évoluent dans cette division-là, je pense, leur donne une meilleure chance peut-être que de bien d'autres équipes. Tu sais, présentement, tout le monde est 1-1. Eux sont juste 0-2, sont un match derrière. Donc, au niveau classement, je pense qu'il n'y a pas de panique. Mais est-ce que ça implique, si les Giants veulent faire les séries, que leur défensive doit se lever parce qu'elle joue pas bien depuis le début de la saison? Et Daniel Jones, faut qu'il joue comme il a joué contre Washington parce que les Giants méritaient quand même peut-être un meilleur sort. si ça n'avait été un joueur défensif avec une tête de banane.
OK, merci les gars. Deuxième essai, si vous le voulez bien, on va parler avec Jean des joueurs qui ont fait des statements cette semaine et quels joueurs devraient faire des statements cette semaine, parce qu'il y a certains joueurs qui ont des débuts de saison un peu plus lents. Et on a parlé de Rodgers, je pense qu'il s'est bien remis cette semaine, mais quel autre joueur, d'après toi, Jean, a fait des statements cette semaine et qui devrait en faire la semaine qui s'en vient?
Ben, je veux dire, Derrick Henry, les gars, quelle performance monstrueuse
incroyable.
Face aux Seahawks. Ceux qui l'avaient dans leur pool ont remercié le bonhomme en haut, parce que c'est une performance incroyable d'Henry pour aller battre les Seahawks chez eux à domicile. On voit quand ça bloque bien devant lui un petit peu. Puis ce que j'ai aimé des Titans dans ce match-là, c'est qu'ils ont jamais abandonné sur Henry, ce qui avait pas été le cas nécessairement dans le premier match, ou ce qui avait pas nécessairement eu beaucoup de portée. Ils ont continué à feed the beast, comme on dit. Donc, tu nourris la bête, tu lui donnes des portées, puis il les a récompensés. Écoute, il les a ramenés tout seul, je pense, dans ce match-là. On voit que c'est un des porteurs de ballon qui a encore beaucoup, beaucoup d'impact dans la game d'aujourd'hui. C'est un monstre, tout simplement. J'ai beaucoup aimé Derek Carr également face aux Steelers. Derek Carr qui a... je pense, fait taire ses critiques, mais c'est pas encore assez pour Derek Carr. Parce que il y a pas beaucoup de gens qui le placent ou qui pensent que Derek Carr, c'est un carrière élite. Donc, il devra faire ça semaine après semaine. C'est ça la question. Est-ce qu'il va être capable d'être constant puis d'avoir ce genre de stats-là à toutes les semaines? C'est ça qu'il faut se demander. Mais je pense que c'est quand même un match important pour lui, là, qui a joué à Pittsburgh. Cette semaine, moi, je regardais un petit peu là, qui doit rebondir, qui doit avoir des grosses performances. Moi, je pense à Najee Harris du côté des Steelers. Les gars, présentement, les Steelers de Pittsburgh sont la pire attaque au sol de la NFL.
On oublie d'en parler.
Comme l'an passé.
57 verges par course.
Puis on oublie d'en parler tantôt, mais
par match,
Roethlisberger, c'est pas fait qu'il est là pour les prochaines semaines.
Non, ça c'est un point d'interrogation, mais t'as quand même repêché Harris pour qu'il qu'il solutionne pas tous les problèmes, parce que je pense que les Steelers savaient que leur ligne en attaque est questionnable, on le voit clairement, mais il fait pas assez présentement Najee Harris, puis c'est là que tu vois qu'il y a vraiment une bonne différence entre la NCAA puis la NFL. Présentement Harris, s'il y a pas nécessairement un gros trou devant lui, il est pas capable d'aller chercher des verges positives ou briser un ou deux plaqués, puis tu sais, de transformer un gain qui était ordinaire de une ou deux verges à 7-8 verges. Puis je pense que quand tu es un choix de première ronde comme porteur de ballon, c'est ça que tu dois amener, puis moi je vois absolument rien de ça présentement. Par contre, il a montré contre les Raiders qu'il est capable d'attraper des ballons dans le champ arrière puis de le transformer en toucher. C'est peut-être une option que les Steelers vont peut-être explorer un peu plus. C'est un gars qui est polyvalent, donc il va peut-être utiliser cette polyvalence-là à bon escient. Mais il doit faire mieux.
Un autre joueur qui aurait à faire un statement, je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit pas Aaron Donald depuis le début de la saison.
Ah non, Aaron Donald a fait des beaux jeux contre les Colts la semaine passée. Il a vraiment, à tout bout de champ, fait exploser la pochette, faire voler un gars sur Carson Wentz, ça crée une passe incomplète. Non, moi, si tu veux un joueur défensif, Jean-Nic, personnellement, il y en a un, moi, que je vois pas cette année à date, puis qui faisait beaucoup de bruit l'an passé à sa saison recrue, c'est Chase Young. L'ailier défensif de Washington... Il y a pas de sac, il y a 4 plaqués, mais les sacs, ça, c'est une chose. Ça se peut que des fois, tu sois toujours dans la face du corps arrière, mais tu n'arrives juste pas à l'atteindre. C'est pas grave, ça. Tu déranges, tu es capable de causer des jeux qui s'en vont tout croche à l'attaque de l'autre côté. Jusqu'à maintenant, c'est pas ce qu'on voit de Chase Young. C'est très tranquille. Puis Washington, tu vois, on parlait de cette équipe-là comme d'une potentielle défensive du top 3 dans la NFL. L'an passé, il y avait eu vraiment une grosse ascension du côté défensif. On le voit pas cette année. T'sais, c'est une équipe qui joue pas mal défensivement, mais c'est pas une défensive dominante. Puis la pièce maîtresse pour moi de cette unité-là, c'est Chase Young. Jusqu'à maintenant, plutôt silencieux. On parle de gars qui ont besoin de faire des statements. Pour moi, c'est un bon exemple parce qu'on voit souvent les corps arrière, les vedettes offensives, mais un joueur d'impact comme Chase Young peut l'être, c'est très, très important aussi là pour Washington.
Puis Ezekiel Elliott?
Moi, ça va de la façon que je pense que les Cowboys veulent vraiment essayer de conserver ses énergies toute la saison. C'est pour ça qu'avec Pollard, l'autre porteur de ballon, je pense que c'est à date, c'est 50-50. Puis je déteste pas cette façon de fonctionner là. Il y a pas eu un mauvais match la semaine passée. Je pense que Pollard a été meilleur que lui. Mais il y a des matchs, peut-être que ça va être le contraire. Mais je déteste pas présentement la formule des Cowboys. On va le reposer, puis il va être frais à la fin de l'année. Ça, je pense que c'est pas mauvais. Moi, un joueur que j'aimerais voir un gros match de lui cette semaine, c'est Jimmy Garoppolo. C'est pas qu'il a mal fait depuis le début de la saison. Il fait bien. Son équipe est 2-0. Mais lui aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur lui. Puis cette semaine, c'est un match à grande écoute. C'est dimanche soir. Les Packers s'en viennent voir les Niners à la maison. Il se doit d'avoir un bon match.
Puis l'attaque va reposer sur lui, oublie pas ça, parce qu'on parlait
de l'autre bon point tantôt.
Là, tu peux pas te rabattre sur Raheem Mostert, tu peux pas te rabattre sur Elijah Mitchell, sur Trey Sermon, sur Jamichael Hasty, sur Jeff Wilson. T'es rendu loin, loin, loin dans le depth chart. Donc, Garoppolo, c'est vrai, il a très bien joué la semaine 1, honnêtement. Ça a été un fort match. Plus tranquille la semaine passée contre Philadelphie.
Exact. Et okay. Dernier point, Joe Burrow. Joe Burrow n'a pas un bon début de saison avec les Bengals. On s'attendait à un peu mieux. Oui, il revient d'une blessure. Mais là, écoute, il s'en va jouer à Blitzburg contre les Steelers. Il est mieux d'être prêt. Puis ça serait bien qu'il rebondisse un peu pour montrer qu'il est sur la bonne voie. Parce que présentement, c'est difficile.
Troisième essai, les gars. Le sujet de l'heure en ce moment dans la NFL, les pénalités pour taunting, pour avoir provoqué l'adversaire. Tout le monde a son opinion. Les entraîneurs sont interrogés là-dessus. D'abord, juste pour mettre les gens en contexte, là, on a resserré les règles ou la pénalité pour taunting dans la NFL. C'est-à-dire quand un joueur veut provoquer l'adversaire après un beau jeu, il y a une pénalité de sportsman, comment on dit en français, d'inconduite ou d'esprit sportif. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que ça fait partie du jeu de célébrer le jeu, un beau jeu d'en face de son adversaire ou c'est une pénalité qu'on devrait voir disparaître dans la NFL?
Ben, écoute, si tu me le demandes, moi, je pense que surtout la NFL, c'est du sport, oui, mais c'est aussi de l'entertainment. Puis là, je pense que quand tu imposes des punitions pour ça, tu t'en vas un peu contre ton entertainment, là, ta business de ça. Au-delà de ça, je peux comprendre un peu pourquoi tu essaies de faire ça, mais pour moi, c'était pas un problème. C'est ça que je vois différemment, je pense, des décideurs de la NFL. Eux, ils voyaient un problème avec ça. Moi, j'en voyais pas. Je pense que c'était encore sous contrôle. C'est sûr aussi que quand t'es la NFL, t'as un rôle à jouer pour les plus jeunes. Ça reste des modèles, ces gars-là. Fait que s'ils sont un petit peu trop agressifs, ben, ça se peut que ça se fasse copier.
Parce qu'il faut mettre la différence. La pénalité, c'est pas si tu fais un beau jeu puis tu célèbres avec tes amis, tu t'en vas devant la caméra dans le fond de la zone des buts ou c'est pas ça, là. C'est vraiment si tu provoques l'adversaire en le regardant, en allant y parler, en étant à quelques centimètres de son visage ou en faisant tourner le ballon dans sa face, en lui faisant signe. C'est un peu essayer de prévenir ce que l'entraîneur Rivera disait de l'équipe de football de Washington. Il disait, ce qu'on veut, c'est éviter des batailles.
Ben, un, c'est pas comme s'il y en avait des milliers de batailles dans la NFL. Ça, c'est la première des choses. C'est que pour moi, cet argument-là n'est pas vraiment valable.
Il y en a plus au baseball, c'est tout dire.
Ouais, exact. Moi, où le bas blesse, comme on dit, c'est, je trouve que ça va contre des fois la mentalité que tu veux instaurer en défensive. Tu veux avoir des gars super agressifs, tu veux avoir le mâle alpha, puis ça vient un peu piger là-dedans. C'est surtout des demi-défensifs face aux receveurs, depuis que le monde est monde, ces gars-là sont un petit peu arrogants. C'est ça que tu veux aussi de ces gars-là. Tu veux qu'ils soient un peu comme ça pour... Je pense que ça va les aider dans leur travail.
Mais on t'empêche pas de célébrer. On dit, je comprends ouais, mais ce que tu dis.
De là à enlever un ballon qui spinne, un ballon qui spinne proche d'un gars, waouh! Tu sais, c'est, pour moi,
c'est l'intention.
Il y a une question de constance aussi, moi, qui me dérange jusqu'à maintenant. C'est que, pour reprendre l'exemple que Jean vient de donner, tu spinnes le ballon à quelques pas des pieds d'un adversaire, là, tout à coup, ça devient une faute grave, mais Lamar Jackson fait un toucher, il fait une pirouette, c'est correct. Je comprends qu'il n'a pas fait une pirouette d'en face d'un adversaire, mais est-ce que l'adversaire peut juger, lui, qu'il aurait été provoqué? Tu sais, il y a une question très subjective là, là-dedans que les arbitres doivent déterminer. Puis à tout bout de champ, c'est sûr que tu vas prendre une décision que tout le monde va dire, ben voyons, là, il a provoqué personne avec ça, puis l'autre arbitre penserait différemment. Quand ça implique vraiment là, des questions de jugement comme ça, ça peut devenir problématique. Mais il y a une chose que je me dis, là en ce moment, c'est la grosse affaire, parce qu'il y a une emphase là-dessus. Rappelez-vous, là, pas plus loin qu'en 2016, il y avait justement le même point d'emphase de la Ligue sur les pénalités là, pour avoir provoqué. Ça avait résulté en 12 mouchoirs lors des deux premières semaines. On est à peu près à ça, là, si je me trompe pas actuellement. Il y avait aussi un scandale à ce moment-là. Tout le monde paniquait. Puis finalement, dans les 15 semaines suivantes, dans un article là, que j'ai d'ESPN, il y avait eu 26 pénalités là, pour taunting. Donc, il y avait eu une grosse emphase dans les deux premières semaines. Comme ça, on disait aux joueurs, attention, là, on va être sévère, on n'en laissera pas passer. Puis après ça, on se calme un petit peu. Donc, j'ai l'impression que la machine va se roder puis que tout va s'équilibrer, d'où les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais en ce moment, c'est sûr que ça fait drôle de voir autant de pénalités là, dans
cette situation. Mais tu vois, tu as raison. Là, j'ai regardé pendant que tu parlais, puis c'est 10 pénalités totales l'an passé. Et là, c'est 10 en deux semaines.
Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a beaucoup. Mais comme je le dis, je serais pas surpris là, qu'après avoir créé un certain remous avec ça, la Ligue s'ajuste, les officiels s'ajustent, les joueurs s'ajustent aussi, parce que ce sont eux qui sont impliqués d'abord et avant tout. Puis qu'en bout de ligne, là, à la fin de la saison, on va avoir trouvé un certain équilibre, puis je suis à peu près convaincu que plus personne va parler de ça rendu.
Moi, la punition, le gars qui m'a fait un petit peu tilter, parce qu'ils sont pas toutes mauvaises. Il y en a que c'est des vraies punitions, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais celle de DJ Reed en fin de semaine, dans le match des Seahawks face aux Titans, il couvrait AJ Brown des Titans. Il fait un super beau jeu proche de la zone des buts.
Oui.
Il se lève, il a juste crié un peu, là.
Proche de sa face.
Non, mais on s'en fout.
Je sais, mais il
célébrait son jeu à lui. Je l'ai même
pas. Pourquoi il va pas célébrer avec ses amis plutôt que d'écœurer le gars qui vient?
Ben, c'est instinctif. Tu viens de faire un jeu. Tu sais, je veux dire, c'est normal de faire ça. Moi, pour moi, cette punition-là n'avait pas lieu d'être. Puis, c'est pas un problème pour moi. Il est pas allé dans face à face avec le AJ Brown.
Non, il était par terre, la face dans le gazon. Mais c'est vrai, mais je t'entends, je suis d'accord avec toi que les gars qui font des bons jeux, ils ont envie de tout de suite triompher. Là. La ligne est mince, mais...
La ligne est très mince, c'est très, très fragile. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
OK, ben merci les gars pour cette discussion. On va voir, tu as peut-être raison, Steph, là, qu'après quelques semaines, on n'en parlera plus, mais peut-être aussi parce que les équipes vont s'être ajustées puis les coachs aujourd'hui ils vont dire à leurs joueurs, OK, les gars, on fait plus ça.
Et, ouais, ils vont leur demander, c'est sûr, de garder leurs mains dans leur poche. Là. Ça s'en vient. Là. Il va y avoir, autant il y a une emphase de la Ligue, il va y avoir une emphase des coachs dans les meetings d'équipe, les meetings de position, de dire à leurs gars, écoutez, on veut que vous soyez émotifs, on veut que vous soyez crainqués. Mais quand vous faites un bon jeu, allez célébrer ailleurs que devant le nez de l'autre joueur. Là.
Exact. Puis par-dessus.
Ça va, le mot va se passer. Les joueurs vont célébrer de d'autres façons. Les arbitres aussi vont peut-être un petit peu slacker. Tu sais, quand il y a une controverse comme ça, tout le monde s'ajuste. C'est depuis que la NFL existe, il y en a eu je sais pas combien des controverses d'arbitrage. Je pense qu'il y a un an ou deux, c'était les pénalités pour avoir retenu. On avait mis une emphase incroyable là-dessus. On paniquait au bout du premier mois de la saison, puis finalement, ils ont rangé leur sifflet. Les joueurs de ligne offensive se sont ajustés. Tout le monde a été content à la fin de l'année. C'est des périodes d'ajustement. Là, je pense pas que ça va être un grand scandale, mais au moment où on se parle, oui, il y a une controverse autour de ça, c'est clair et net.
Et oubliez pas aussi qu'on n'entend pas ce qui se dit nécessairement sur le terrain. Tu sais, après un beau jeu, si tu vas écœurer le receveur avec le F-word ou n'importe quoi, peut-être que les arbitres aussi ont décidé qu'il y a du vocabulaire qui passerait plus. Là,
c'est sûr qu'il faut peut-être pas que ça se passe comme dans Slapshot.
Exact. OK. Merci, les gars. On s'arrête. Après la pause, on va jouer à fait ou faux dans notre quatrième essai. Je vais vous demander si ce que je vous dis est un fait ou si c'est faux. Bougez pas. Vous êtes sur le podcast La Zone Payante en compagnie de Stéphane Cadorette et Jean Carrier. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné. Et donc, on est au quatrième essai, les gars. Go for it, hein?
Toujours. Fait on a une mentalité agressive.
C'est vrai. Fait ou faux, on y va avec...
Comme John Harbaugh avec les Ravens. C'est pas posé aucune question.
Hein, il y a eu des bons quatrièmes essais. John Gruden aussi, il y a eu des bons quatrièmes essais assez gâtés en fin de semaine.
Comme on les aime.
Pas comme les Dolphins, ils en ont essayé quatre, ils ont tout raté. On en reparlera une autre fois. OK. Fait ou faux, les gars, la défensive des Panthers est for real.
C'est faux, c'est archi faux. C'est pas mal plus les opposants qui ont affronté. Puis je dis pas qu'ils font bien, qu'ils ont mal fait. Écoute, c'est la première défensive de la NFL présentement. Ils ont 190 verges d'accordés en moyenne par match. Les plus proches, c'est les Bills à 234 verges. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Mais c'est sûr que ça va augmenter. Je dis pas que c'est pas. Ils finiront peut-être pas dans le top 15, dans le top 10. Mais c'est plus les opposants pour moi qui ont affronté. Ils ont affronté les Jets avec un carrière recrue. Ils ont affronté les Saints qui ont, je pense qu'on les avait peut-être surestimés un peu avec le match contre les Packers. Puis en plus, les Saints avaient, au niveau logistique, une semaine absolument atroce au niveau du voyagement avec évidemment l'ouragan là, avec les Saints. Donc ça a été extrêmement pénible. Je pense qu'ils ont eu deux attaques amochées. Puis ça se réglera pas la semaine prochaine parce que je pense que évidemment les Panthers qui s'en vont affronter les Texans sans leur carrière partant Tyrod Taylor, ça risque d'être encore une belle journée défensive.
OK. Et
ça va arrêter à un moment donné.
Moi, je dis que c'est un fait. Moi, je pense qu'ils vont être solides, les Panthers, en défensive. Est-ce qu'ils vont être premiers? Non, ça, c'est sûr. Là. Faut pas se faire d'accroire. Comme Jean le dit, ils ont eu des adversaires qui les ont aidés un peu. Mais j'aime beaucoup ce que je vois de leur pass rush avec Brian Burns, avec Haason Reddick. Il y a 8 joueurs dans cette équipe-là qui ont au moins un demi-sac. Tu sais, la pression vient pas mal de partout. Puis j'aime dans la tertiaire là, les ajouts des deux dernières années, un maraudeur versatile comme Jeremy Chinn qui peut même jouer à la position de secondeur. Ça a été un gros ajout pour cette équipe-là. Puis J.C. Horn, le demi de coin recrue qu'on a repêché, je pense que c'était 10e au total, quelque chose comme ça, cette année au repêchage, connaît un fort, fort début de saison. Il a accordé un catch jusqu'ici en 2 matchs. C'est sûr, là, c'était pas des grosses, grosses attaques de l'autre côté, comme Jean le dit avec raison. Je pense que la défensive des Panthers peut terminer top 10, peut-être plus proche de 10 que de 1. Ce qu'on voit en ce moment, là, c'est un peu surréaliste. Mais tiens, tu demandes, est-ce que c'est pour vrai? Si ça finit top 10, pour moi, c'est pour vrai.
Sam Darnold tourne le coin en ce moment comme carrière. Fait ou faux?
C'est encore tôt. Donc pour moi, je vais le mettre dans faux. Parce que je trouve que c'est un petit peu trop tôt pour dire que Sam Darnold est un QB élite dans la NFL. Ça va bien, je suis content. Une chose est sûre, c'est qu'il est dans un meilleur environnement pour avoir du succès. Mais pour moi, ça va prendre un échantillon plus grand que 2 rencontres. Okay.
Steph, fait ou faux?
Ah, c'est faux aussi pour moi. Écoute, Sam Darnold, à date, c'est pas lui qui fait nécessairement gagner son équipe. Je trouve qu'il joue bien. Il joue bien, j'y enlève pas ça. Est-ce qu'il joue de façon transcendante? Là? Est-ce que c'est extraordinaire, ses performances? Moi, je suis pas rendu là dans l'évaluation. Il est très bien appuyé en ce moment. Il a de bonnes armes à l'attaque. Je pense qu'il peut connaître une bonne saison. Mais moi, quand on parle de tourner le coin, on parle d'un 3e choix au total. Je m'attends à encore plus.
Okay.
En ce moment, moi, je dis pas que c'est lui qui élève son équipe. C'est la défensive, c'est Christian McCaffrey, puis des receveurs là qui facilitent sa tâche, contrairement à la situation où il était à New York.
OK, fait ou faux, Dak Prescott est revenu à sa forme d'antan.
Pour c'est moi, faux. Ça, c'est un fait. Ah, OK. Ben, écoute,
Vas-y, Steph.
Prescott, écoute, c'est sûr que sa forme d'antan, si tu le prends au sens strict du terme, Il va encore probablement s'améliorer parce que sa mobilité est-elle revenue au complet? Ça, c'est des choses qu'on va voir dans les semaines à venir. Mais je le voyais plus au sens encourageant où je me pose plus de questions par rapport à sa cheville. Est-ce que ça l'empêche de jouer? Son épaule, est-ce que ça l'empêche de jouer? Je pense qu'il est en route vers le sommet de sa forme. Donc, c'est pour ça là, que je te dis que c'est un fait.
Jean?
Dans mon sens, pour moi, c'est faux parce que tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas des jeux qui sont faits pour courir, c'est là que je vois qu'on est encore un peu craintif ou on veut le mettre dans une bulle, un petit peu du papier bulle pour s'assurer qu'il va rester en santé. D'un point de vue carrière de la pochette, il est revenu au sommet. Il fait ce qu'il a à faire, j'ai pas de problème avec ça. Mais il est-tu revenu au sommet de sa forme? Pour moi, au sommet de sa forme, ça veut dire aussi Dak Prescott qui court à des moments clés du match. Puis ça, je l'ai pas vu dans l'appellation des jeux. Puis je pense pas qu'on va le voir tout de suite. Donc pour moi, tant que je vois pas ça, ça sera pas le cas. C'est faux pour moi.
OK, fait ou faux, Micah Parsons est la meilleure recrue en défensive depuis le début de la saison.
Pour moi, c'est un fait parce que ce que j'ai aimé de Parsons, au-delà du fait que ça a été, on le savait là, avant qu'il soit repêché, un joueur extrêmement athlétique, très rapide. Là. Quand un secondaire court un 40 verges en bas de 4-4, là, c'est un phénomène rare. Là. Mais j'ai adoré qu'on le mette en situation inconfortable en fin de semaine passée. Rappelez-vous, il y a eu des blessures à DeMarcus Lawrence là, puis d'autres joueurs défensifs sur le front des Cowboys. On est obligé de le faire jouer comme ailier défensif. Puis savez-vous quoi? Il a connu un très bon match là, comme ailier défensif face aux Chargers. Il a été un facteur de gros jeu là, en fin de rencontre. Sa rapidité fait en sorte qu'il se retrouve partout sur le terrain. Pour moi, à date, c'est pas mal la meilleure recrue en défensive avec le gars que je vous mentionnais tantôt, là, J.C. Horn des Panthers de la Caroline, le demi de coin. Jusqu'ici, ça se joue entre ces deux-là, mais écoutez, la saison est très jeune. Il y en a d'autres qui vont s'insérer dans la discussion.
Pour moi, c'est un fait aussi. Il a été extraordinaire pour l'instant, Micah Parsons. Le point, moi, je trouve que c'était une décision horrible des Cowboys. Je pense encore que c'est une décision horrible. Ça prend un certain temps pour devenir un excellent secondaire dans la NFL. Moi, je pense que Parsons a le potentiel pour être top 3 secondaire de la Ligue. Puis là, tu vas altérer son développement parce que tu as besoin d'un ailier défensif. On voit sa polyvalence. Il l'a fait. Il l'a très bien fait. C'est pas ça que je doute. Mais moi, je trouve que tu vas piger dans ton avenir un petit peu. Ce jeune joueur-là, il a besoin de voir des snaps comme joueur défensif, comme secondaire. Et là, si tu le mets toute l'année comme ailier défensif, pour moi, c'est un problème.
J'espère que ce sera pas toute l'année, mais on parle d'une... Mettons que c'est un match ou deux, moi, je vois pas de problème, mais c'est sûr qu'il faudrait pas que ça s'étire.
OK. Fait ou faux, est-ce que Justin Herbert est en train de souffrir de la guingue de la deuxième année?
Moi, je dirais faux. Personnellement, Justin Herbert fait pas de mauvaises choses jusqu'ici, au contraire. La semaine passée, oui, défaite contre les Cowboys, mais il a été tué, Justin Herbert, par les pénalités incessantes de son équipe. Moi, je suivais pas mal ce match-là, puis à un moment donné, ils ont perdu 6 premiers jeux en raison de pénalités. Ils ont perdu 2 touchés en raison de pénalités. Tu regardes la fiche à la fin du match du gars, bon, OK, c'est pas super reluisant, mais faut que tu prennes en compte ces choses-là. La NFL, c'est pas juste de regarder un box-score à la fin de la game. Justin Herbert, pour moi, montre pas de signes inquiétants jusqu'à maintenant cette année, là, pas à mon sens.
Je suis Steph aussi là-dessus. Pour moi, c'est faux. Puis t'as juste besoin de regarder le match. Il a encore fait des passes absolument hallucinantes dans cette rencontre-là. Il y a trop de talent, les touchés vont commencer à venir. Je suis pas inquiet là-dessus.
OK. J'en ai-tu une dernière? OK, fait ou faux. Urban Meyer, là, qui a un début de saison pas surprenable. Jacksonville n'a pas une grosse équipe, mais est-ce qu'il va finir, vous pensez, comme Nick Saban et retourner dans le college? Fait ou faux?
Ouf, celle-là, je la trouve difficile. Faux. Je sais que Urban Meyer a déjà des
parce qu'il y a déjà des rumeurs qui s'en retournent.
Ouais, qui retournerait peut-être à USC. Il y a peut-être, en tout cas, j'ai entendu ces rumeurs-là. Mais je pense que Urban Meyer, quand il s'investit quelque part, il s'investit à fond. C'est vraiment pas un bon début pour Urban Meyer avec les Jags. Ça va être une saison longue et pénible. Il veut évidemment instaurer son système offensif qui a eu du succès, qui est du spread offense à Jacksonville, mais je pense qu'il s'aperçoit aussi que la NFL, c'est une autre bête complètement que la NCAA. Je pense qu'il... Il y a eu des problèmes de santé également, Urban Meyer. Ça,
il était à la retraite, hein?
Il était à la retraite. Est-ce qu'il va retourner au college pour recommencer à zéro? Moi, c'est plus là qu'il faut se poser la question. Pour moi, c'est non, c'est faux. Ça va rester comme ça. Ça passe ou ça casse avec les Jets.
OK, Urban Meyer va finir comme Nick Saban. Fait ou faux, Steph?
Moi, je pense que c'est un fait parce que là, tu parles de Saban. La question, c'est pas est-ce qu'il s'en va à la fin de l'année? Mais Saban avait fait quoi, 2 saisons avec Miami? Moi, je le vois comme quoi c'est fort possible qu'il fasse pas plus que 2 saisons, Urban Meyer à Jacksonville. Il y a déjà eu plein de controverses là-bas. On se rappelle quand il avait amené son trainer controversé, il était obligé de finalement de reculer. Semble-t-il que l'entente avec les joueurs, c'est pas nécessairement fabuleux. Il a piqué des seins de colère pour des défaites en pré-saison. T'sais, le gars est clairement pas habitué de perdre. Là, on le sait, sur la scène collégiale, pas eu beaucoup de défaites, Urban Meyer. Puis ce serait pas le premier, là. Tu parles de Saban, mais regarde, là, Chip Kelly, Steve Spurrier, Bobby Petrino, Butch Davis, il y en a une panoplie d'entraîneurs qui ont été franchement excellents là, sur la scène universitaire dans la NCAA, puis qui sont arrivés dans la NFL, puis les relations avec les joueurs sont plus difficiles. C'est pas du tout la même chose recruter des jeunes que de coacher des pros, des gros bonhommes, plus matures,
des hommes,
disons.
Des hommes.
Des hommes, c'est ça, exactement. Donc, moi, si tu me dis, est-ce que c'est un fait qu'il pourrait subir le même sort que Nick Saban puis s'en aller après 2 saisons, là, tout à fait, c'est dans le domaine du possible, absolument.
OK, question quiz cette semaine, les gars. Tom Brady, qui est déjà à 8 passes de toucher en 2 matchs.
9.
Il est à 9. Ben, il y a 2.
Ben, oui.
En fait, il y a 2 matchs consécutifs de plus de 4 passes de toucher. Il est rendu à 4 ouais. matchs, en fait, consécutifs, 2 cette année, puis 4 au total. Lui qui a eu le plus de matchs consécutifs avec 4 touchés au moins, c'est Peyton Manning. C'est lui, il en a eu 5 matchs consécutifs. Tom Brady rendu à 4. Qui l'a rejoint cette semaine en faisant en sorte d'avoir un 4e match consécutif avec au moins 4 passes de toucher?
Je dirais Drew Brees, vite de même.
Non.
Dan Marino?
Oui! Bonne réponse! Oh. Je me suis fait plaisir après une semaine terrible pour les Dolphins. Je me suis dit qu'on pourrait rappeler une époque glorieuse.
Félicitations, c'était
une époque glorieuse. Non,
ouais, ah, puis ça, j'imagine que c'est sa grosse saison de 84, là, je sais pas.
Ouais,
mais, c'est l'année où il a battu les records qui sont restés pendant à peu près 30 ans. Là, donc, ouais. Marino qui était... J'aurais voulu voir Dan Marino dans le football d'aujourd'hui. Là, ce serait... C'est sûr qu'il n'est pas le corps arrière mobile. Là, dans pochette, des fois, il aurait eu de la misère. Mais j'aurais tellement voulu voir un bras comme ça. T'sais, il y avait le... Excusez de l'expression, mais le release le plus vif ouais. que j'ai probablement vu de ma vie, là, Dan Marino, ce serait fantastique de le voir jouer dans la NFL d'aujourd'hui avec des règles ouvertes qui favorisent clairement les attaques aériennes. Ce serait tout un spectacle.
OK, on a 16 matchs sur lesquels se prononcer après la pause. Restez là, j'espère que vous êtes prêts, les gars. On va aussi regarder vos résultats de la semaine passée en espérant que ça soit meilleur que la semaine 1. Bougez pas.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
À la zone payante avec Jeanne Colagagné, Stéphane Cadorette et Jean Carrier. Les gars, c'est parti. On y va avec nos prédictions pour la semaine. D'abord, de quoi celui-là la semaine passée, Jean?
Quand même beaucoup mieux. Là. Dans mon cas, je suis 9 en 16, donc c'est acceptable. Dans le cas de Steph, il est 10 en 16. Donc, on s'en va vers le positif un petit peu, là. Donc, je tire l'arrière par un face à Stéphane.
OK. Bon, ben, je trouve plusieurs blowouts, entre guillemets, de prévus cette semaine quand je regarde les prévisions à Vegas. Entre autres, Panthers contre les Texans. Avec un quart, leur cinquième quart, là, je sais plus, ils sont rendus à combien. Je comprends que Tyrod Taylor a eu un bon début de saison, mais c'était sûrement pas leur premier choix l'an passé. Qui peut remporter ce match-là?
Ben, c'est dur d'y aller autrement qu'avec les Panthers. Tu sais, Davis Mills, le corps arrière auquel tu fais allusion pour les Texans, c'est un choix de troisième ronde. Tu sais, c'est quand même pas un espoir banal, mais c'est un gars à Stanford qui a eu seulement 11 départs dans la NCAA. Tu sais, c'est pas comme s'il regorge d'expérience puis qu'il arrive puis qu'il est prêt pour un grand moment comme ça. Tu sais, j'ai l'impression que ça va être difficile.
Ils ont pas un gars sur le banc, là, les Texans, là, comment ils s'appellent, donc, qui pourrait jouer, là. Il semble qu'il coûte comme 100 millions, là.
Ouais, c'est ça. Il s'est fait poser la question, d'ailleurs, l'entraîneur-chef David Culley cette semaine. Est-ce que, vu que Tyrod Taylor est sur la liste des blessés, donc qui va rater au moins 3 matchs, est-ce qu'il y a une possibilité que pendant ce temps-là, on habille de Sean Watson? Puis il a laissé planer le doute dimanche en disant « c'est quelque chose qu'on va évaluer ». Finalement, il est revenu cette semaine en disant « ah, ce sera pas le cas ». Donc, ça va être bel et bien Davis Mills, le partant. Hâte de voir là, contre une défensive comme celle des Panthers, on en parlait tantôt, mais je me ferais pas beaucoup d'espoir si j'étais partisan des Texans. Je vais y aller avec une victoire des Panthers.
OK.
Des Panthers aussi, ouais. C'est un carrière de pochette aussi. Donc, c'est pas un gars que tu bouges dans la pochette. C'est un grand carrière, 6-4, qui aime lancer d'un point précis. Et ça aidera pas sa cause parce que le pass rush des Panthers, c'est exactement où ce qui s'en va. Donc, ça va être, ça risque d'être difficile.
OK, un autre match facile à prévoir. Broncos à Denver contre les Jets.
Oui, ben écoute, si notre carrière, Zach Wilson a de la difficulté, ces deux premiers matchs, je vois pas comment ça peut se faciliter à les jouer au c'est pas le Mile High Stadium, là, mais c'est le...
Ils ont changé trop de noms, ouais, eux autres. Ça reste le Mile High dans notre esprit.
OK, merci, Steph. Mais ça va jouer à Denver, dans l'altitude, avec quand même une bonne défensive devant lui. Ça risque d'être encore une fois difficile pour les partisans des Jets victoires Broncos.
Ouais, ça sert à rien de trop insister sur ce match-là, à moins d'une catastrophe. Teddy Bridgewater, qui devrait encore connaître de bons moments. J'ai hâte de voir Bridgewater et les Broncos, tu sais, contre une vraie grosse équipe. Parce qu'en ce moment, c'est beau. C'est 2-0, tu sais, tu peux pas demander mieux. Mais ils ont battu les Giants et les Jaguars. Là, tu tombes contre les Jets. Tu sais, c'est des beaux cadeaux en début de parcours. Ben hâte de voir là, ce que ça va donner, là, de voir vraiment la véritable identité des Broncos quand ils vont se mettre à pogner des gros, gros clubs.
Les Broncos qui sont top 10 présentement offensivement, pas beaucoup de personnes auraient dit ça.
Les Ravens qui ont eu deux matchs assez difficiles, ont-ils un break en fin de semaine en affrontant les Lions?
Tout un break, effectivement. T'sais, c'est sûr, les Lions, ça risque d'être un rouleau compresseur. Là, entre Lamar Jackson, Tyson Williams, Latavius Murray... T'sais, c'est une équipe de milieu de peloton, les Lions contre la course, mais une équipe de milieu de peloton pour freiner l'arsenal terrestre des Ravens, c'est pas assez. Donc, inutile d'insister, là, ça va être une victoire des Ravens.
Victoire des Ravens aussi. J'ai aimé quand même comment Dan Campbell avait préparé son équipe contre les Packers. Ça n'a pas été si facile que ça, mais à un certain moment donné, ben, je pense que ça va casser. Un peu comme ça a fait contre Green Bay, puis les Ravens vont prendre contrôle du match.
Les Bills qui sont amplement favoris contre Washington, surprenamment, mais ça avait raison tantôt, là, Josh Allen et les Bills n'ont pas eu un début de saison convaincant à l'attaque, mais à la défensive, ils sont terribles.
Oui, c'est ça, c'est de toute beauté de les voir aller. Là, ils vont vraiment... chercher les corps arrière adverses, puis c'est de quoi qu'on voyait pas l'an passé du côté de Buffalo. Donc ça, c'est le signe encourageant. Tu sais, entre AJ Epenesa, le joueur de deuxième année, puis Gregory Rousseau, recrue, on parlait des recrues tantôt qui ont un impact en défensive. Gregory Rousseau, très bon début de saison, 2 sacs la semaine passée contre Miami. Ce que je veux voir plus, moi, du côté de Buffalo, c'est Josh Allen. L'an passé, au total... 2 matchs seulement dans sa saison qui a complété moins de 60% de ses passes. Puis cette année, c'est 2 matchs jusqu'ici, moins de 60% de ses passes complétées. On veut pas revoir le vieux Josh Allen qui souffrait d'imprécision. Là. Je pense pas que ce soit le cas. Là. Faut pas s'emporter pour 2 matchs. Mais quand même, ce serait important de voir de meilleures choses de son côté. J'ai victoire des Bills, mais par contre, ceux qui suivent les spreads sont favoris par 9 points. Je trouve que c'est beaucoup contre une équipe comme Washington, qui est toujours coriace, qui est dans tous ses matchs. Je les vois pas couvrir le spread, mais je leur donne la victoire.
J'ai les Bills également. Je trouve que défensivement, Washington a beaucoup de choses au niveau de la tertiaire à, je dirais, régler rapidement. Il y a des manques de communication. On l'a vu contre les Giants. Ils sont faits quand même ouvrir par Daniel Jones. Faut pas avoir peur des mots. Je pense que ça va être quand même un peu mieux. Ron Rivera, il sait ce qu'il fait comme entraîneur défensif, mais je pense que la commande est un petit peu trop grosse face aux Bills à Buffalo. J'ai les Bills dans ce match.
Juste rapide pour la tertiaire de Washington. On a parlé de Benjamin St-Juste après la semaine 1. On s'était pas caché, ça avait été une semaine difficile.
Ouais, il y a eu un bon match.
Il a été très bon là, jeudi dernier contre les Giants. Vraiment une grosse amélioration. C'est le genre de joueur qui étudie puis qui fait pas les mêmes erreurs deux fois. C'est ce qu'il me disait, moi, souvent, Benjamin St-Juste, là, lors d'entrevues que j'ai faites avec lui. Donc, faut quand même en parler. Là, on a souligné le mauvais côté la semaine passée. Grosse amélioration de son côté à la semaine 2.
Les Cards, là, qui semblent invincibles, ils s'en vont à Jacksonville affronter Trevor Lawrence et ses interceptions.
Ouais, c'est pas facile. Trevor Lawrence, est-ce que je me trompe, c'est 5 interceptions en 2 matchs, c'est ça?
En tout cas, il y en a eu au moins 3 le premier match.
Mais encore pire, tu sais, moi je regarde, je prends pas tout ça comme une religion, mais ce que Pro Football Focus fait, c'est quand même intéressant souvent au sens où ils analysent chaque jeu de chaque joueur. Là, je sais pas combien de recherchistes qu'ils ont puis d'analystes là dans leur équipe, ça doit être faramineux. Mais selon eux, Trevor Lawrence, 36% de ses passes cette année étaient ce qu'ils appellent uncatchable, donc inattrapable en bon français. ça, c'est encore plus inquiétant que les interceptions. Parce que les interceptions, c'est une chose. Garde, Peyton Manning, en 98, son année recrue, après 2 matchs, il y en avait 6. C'est pas signe là, que sa carrière s'en va du mauvais bord. Faut faire attention. Mais en ce moment, l'attaque des Jaguars ne clique pas. Il y a très peu aussi de joueurs là, entre guillemets, de playmakers du côté de Jacksonville. C'est dur pour Trevor Lawrence.
Aussi, là. Exact.
Il est laissé à lui-même un peu. Donc, c'est sûr, ce match-là, je vois une victoire des Cards. Mais il faut voir tranquillement des signes prometteurs du côté de Lawrence. On lui demande pas d'aller chercher la victoire. On lui demande pas de lancer pour 500 verges avec 5 passes de toucher. Mais il faut tranquillement voir qu'il commence à maîtriser l'attaque. Et puis qu'il y a des signes de progrès.
De mon côté, ben écoute, c'est sûr, je vais prendre Arizona. Du côté des Cards, par contre, avec Murray, je dois dire qu'il fait encore des mauvais jeux. Il fait des très, très beaux jeux. L'attaque roule vraiment bien. Mais ça y arrive encore de lancer une mauvaise interception au mauvais moment. Sa fille leur coûté cher face aux Vikings. Ce sera pas le cas, évidemment, contre Jacksonville, mais c'est juste. Je pense qu'il faut qu'il enlève ça vraiment là de sa game s'il veut amener les Cards à un autre niveau. Ceci étant dit, les Cards vont l'emporter assez aisément par plus de 10 points, à mon avis.
Les Titans reçoivent, comment il s'appelle, Jacob Eason?
Oui, ouais. Jacob Eason qui a joué à Washington.
Ouais.
Moi, j'ai les... écoute, je me poserai pas de questions. J'ai les Titans qui vont remporter ce match de division-là. Ils se doivent d'avoir un bon match. Les Titans, ils ont mieux joué en deuxième demi défensivement face aux Seahawks. C'est vraiment la défensive, moi, je me pose beaucoup de questions. Offensivement, ben, je pense qu'on a vu que ça commence à geler un petit peu, là, à prendre son envol. Donc, je vais prendre les Titans. Mais si je disais la semaine passée que ça serait tellement titan d'aller battre les Seahawks à Seattle, ça serait titan également d'aller perdre face aux Colts avec un carrière substitut. Mais je vais quand même prendre les Titans dans ce match-là.
Ouais, j'y vais avec les Titans aussi. Leur défensive, t'en parlais, Jean, c'est vrai que c'est un problème depuis l'an passé. Là, c'est vraiment à répétition, c'est difficile. Faut que tu marques beaucoup de points du côté des Titans pour aller gagner des matchs. Un des gros problèmes, c'est que leur défensive concède beaucoup de longs jeux. Là. 3 longs jeux de plus de 50 verges face aux Seahawks la semaine passée, c'est énorme. Mais tu regardes les Colts, offensivement, ils n'ont pas ce potentiel explosif-là là, d'aller chercher des gros jeux comme ça. Donc, je pense qu'ils vont être plus confortables, les Titans de ce côté-là. Derrick Henry devrait encore connaître un gros match. Les Colts sont 18e contre le jeu au sol. Je vais y aller avec une victoire des Titans aussi.
OK, s'il y a une surprise à avoir dans les matchs qu'on pense dans la poche, est-ce que c'est les Bears contre les Browns qui pourraient se faire surprendre à domicile?
Absolument pas.
Dis le partisan.
C'est ça, je te l'ai mis, non. Sur le tee.
Écoute, ça va être Jalen Hurts fort probablement. Je sais pas.
Jalen Fields. Justin Fields.
Excuse-moi, ouais, je me suis mélangé. Justin Fields qui va être le carrière partant. Il n'y a pas eu de performance défensive dominante encore des Browns. Puis quand tu regardes le potentiel défensif de ce club-là, ils ont beaucoup entre les mains. Offensivement, ben tout clique, sont dans le top 5 de la NFL, ils sont en haut de 400 verges par match. Ça, je pense pas que ça va changer. Même contre les Bears, ils vont trouver une façon d'avoir du succès offensivement. Puis je pense que défensivement, ils vont donner ça difficile à la jeune recrue. Donc, victoire des Browns par un touché.
J'ai les Browns aussi. J'ai hâte de voir. Là, est-ce que Beckham va revenir? On ne sait pas trop encore. Parce que là, sans Landry, pour au moins 3 matchs, ils l'ont mis sur la liste des blessés. Donc, forcément, 3 matchs à l'écart minimum. Ça commence à être plus mince au niveau des receveurs. Par contre, les Browns, et j'aime ce qu'ils ont fait durant la saison morte. On a parlé des additions défensives, mais à l'attaque aussi, là, au repêchage, on a été chercher Anthony Schwartz, qui était le receveur le plus rapide de sa QV. Il y a eu un certain impact jusqu'ici. Puis t'as Demetric Felton, un porteur de ballon qui excelle en dehors du champ arrière, là, lui, pour aller chercher des passes. Donc, des armes de plus pour Baker Mayfield, qui, soit dit en passant, jusqu'à maintenant, je dis pas qu'il y a un début de saison parfait, mais au niveau de la précision, 81,6% de ses passes complétées, c'est quand même phénoménal. Donc, victoire des Browns, là, je vois pas de surprise là, moi non plus.
Les Chargers qui ont de la difficulté avec leur fin de match, on a vu ça encore en fin de semaine, est-ce qu'ils peuvent aller battre les Chiefs à domicile? C'est quasiment mission impossible là, de la façon dont jouent Mahomes et Kelsey.
C'est effectivement une mission très difficile, mais il faut pas oublier dans le cas des Chiefs, ils sont 1-1, ils pourraient être 2-0, mais ils pourraient être aussi 0-2. C'est peut-être un match, moi je pense que c'est un match important parce que tu as les Chargers qui veulent, je pense, accomplir un peu plus dans cette division-là. Ben là, tu les joues à domicile, dans un endroit hostile, c'est le temps de briser les rêves des Chargers. Tu dois d'avoir une performance dominante. C'est peut-être ça qu'on va avoir du côté des Chiefs. J'aimerais voir les Chiefs remporter ce match-là là, par 2 touchés puis que ça soit même pas proche. Puis on l'a vu la semaine passée, les Chiefs, des fois, ils manquent l'instinct du tueur. Ils se sont fait brûler face aux Ravens. Selon moi, les Chiefs avaient beaucoup mieux joué dans ce match-là. Maintenant, ils se doivent de bien finir les matchs. Ça devrait être le cas face aux Chargers.
Ouais, j'y ai pensé à y aller avec la surprise dans ce match-là parce que c'est fort possible. Les Chargers, c'est une bonne équipe. Là. T'sais, j'ai l'impression qu'on va les retrouver en série. Mais on n'a pas vu à date les Chiefs du côté défensif comme ils étaient l'an passé. C'est-à-dire que ça n'a jamais été une défensive dominante, mais ils étaient capables d'aller chercher les gros jeux là, quand c'était le temps. Là, ils se sont fait casser en fin de match par les Ravens. Je m'attends à ce que la défensive fasse quand même mieux. Victoire des Chiefs, mais je m'attends à un match très serré jusqu'au bout.
Se sont fait brutaliser par les Ravens, là, on va se le dire. Là. C'était pas chic. Là.
Ouais, ça avait bien commencé pourtant, l'interception de Tyrann Mathieu. Puis, tu sais, ça s'enlignait du bon côté. On limitait les dégâts, mais à un moment donné, ils se sont fait piler d'en face, effectivement.
Les Bengals s'en vont affronter les Steelers. Avec Ben, à ce qu'on entend, mais peut-être un peu magané.
Ouais, il y a beaucoup d'inconnus au moment où on se parle. Est-ce que Ben va jouer? Est-ce que le receveur Deontay Johnson va jouer? Ça, on n'a pas parlé dans les blessés tantôt, mais ça en est un autre. Est-ce que TJ Watt va jouer? Les Steelers qui sont déjà privés du demi de coin Joe Hayden, du secondaire Devin Bush, ça commence à faire pas mal de partants, ça, qui sont importants dans cette équipe-là. Donc, c'est un match qui me fait peur. En présumant que Big Ben puis que Johnson et que TJ Watt vont jouer, tu sais, on semble dire qu'il y a des chances qu'ils jouent. Je vais y aller avec une victoire des Steelers parce que ça finit que le pass rush va être trop dérangeant pour la ligne à l'attaque des Bengals. Mais c'est un match ça où il y a un vrai potentiel de surprise à surveiller là jusqu'à la fin du côté des blessures.
Écoute, je pense que Steph, en décrivant le match, tu viens de me convaincre d'y aller avec la surprise. Je vais prendre les Bengals, tiens.
C'est moi qui t'ai convaincu.
Ouais, exact. Parce qu'il y a peut-être un peu trop de, justement, mystère et de points d'interrogation du côté des Steelers. Les Bengals, j'ai hâte de voir. On sait pas encore quelle équipe ça va être en 2021. Ils ont joué un bon premier match. Ils ont été très ordinaires en première demi face aux Bears. J'ose croire qu'ils vont peut-être être en mesure de mettre un match complet. Puis je pense que les Raiders ont donné une bonne piste pour battre les Steelers la semaine passée. J'avais parlé du système à Gruden, des petites passes rapides pour que la balle sorte vite. C'est le même blueprint qu'il faut que tu utilises là, pour les Bengals. S'ils font ça et qu'ils installent le jeu au sol, ils ont des bonnes chances de battre les Steelers. Okay. Je vais y aller avec la surprise.
On arrive dans les matchs serrés. Les Falcons contre les Giants. Je ne veux pas dire qu'il est intéressant, mais en tout cas, au moins lui, il y a plus de chances d'être serré.
Oui, effectivement. Là, c'est le fameux cas de laquelle équipe est la moins pire. dans ce cas-ci, moi, je vais y aller. Oui, puis je choisis mes mots. J'ai pas parlé de quelle équipe est la meilleure. Je vais y aller avec les Giants. Ils ont quand même montré de plus belles choses que les Falcons à date. T'sais, quoique les Falcons, ils ont quand même tenu les Bucks à un moment donné à 3 points d'écart au 4e quart la semaine passée, mais 2 pick-six de Matt Ryan, puis merci, bonsoir. Je parlais des Chiefs tantôt, qu'on n'avait pas vu leur véritable défensive. Je pense que les Giants sont capables aussi de beaucoup mieux. T'sais, ils viennent de donner 57 points en 2 matchs. C'est pas ce qu'on a vu l'an passé d'eux autres. Daniel Jones, enfin, pas de revirement à son dernier match avec les Giants, mais ils ont perdu quand même. Je trouve juste que les Falcons, défensivement, sont tellement mauvais qu'avec quand même plusieurs munitions à l'attaque, les Giants devraient être capables de passer à travers.
OK, Jean?
J'ai les Giants également dans ce match-là.
Sans trop d'enthousiasme?
Non, c'est, écoute, c'est ça qui est ça. Les Giants, moi, offensivement, j'ai aimé ce que j'ai vu face à Washington. Si Daniel Jones joue comme ça, je pense que les G-men vont avoir plus de chances de gagner que de perdre. Donc, je vais y aller avec les Giants face aux Falcons. Les Falcons, écoute, j'aimerais ça trouver du positif dans ce qu'ils font présentement, mais j'en vois tellement pas. Donc, un peu par défaut, je joue avec les Giants.
OK, les Saints, là, on sait plus sur quel pied danser. Ils s'en vont en Nouvelle-Angleterre. Qu'est-ce que vous attendez comme résultat alors que les Pats sont favoris par 3 points à domicile?
Ben, ça va encore, ça complique encore les choses pour les Saints. Ils ont vraiment pas un calendrier facile avec tout ce qui est arrivé. Puis là, ils doivent encore se taper un long voyage jusque dans le nord-est pour aller affronter les Pats. Je pense que c'est un peu trop demandé, honnêtement. Les Pats, on l'a vu, c'est pas un club qui est wow, mais c'est un club qui fait bien. Mac Jones, aucun revirement, Mac Jones, depuis le début de la saison.
Mais il vise à 4 verges en face de lui.
Bon, mais je veux dire, on savait tous que ça allait être ça, là, Jean-Nic, là, c'est les Pats, là. Quand Tom Brady est arrivé à sa première année, ça ressemblait à ça. Je pense pas que la recette va changer. Donc, on sait ce qu'on va avoir des Pats du côté des Saints, si on le sait pas. Puis reste que Jameis Winston est un bon carrière, mais est-ce qu'il va être en mesure de s'imposer? Je trouve qu'il manque d'armes offensives à part Kamara face à une défensive qui est quand même coriace. Je pense que je vais prendre les Pats.
Ouais, tu parlais de Kamara, justement. Je pense que 98% des énergies de Bill Belichick cette semaine vont être concentrées sur comment contenir Alvin Kamara puis mettre Jameis Winston au défi de les battre. Puis Jameis Winston, ouais, tu dis que c'est un bon corps arrière, oui, parce que le talent est évident. Là.
C'est talent, exact.
C'est indéniable. Mais Jameis Winston, il va te faire passer par des montagnes, des collines, des vallées, des abysses. Tu sais, ça sera jamais une longue route tranquille. C'est devenu évident. Là. Après son premier match, il y en a plusieurs qui le mettaient sur un piédestal. Wow, 5 passes de toucher. Puis il fallait s'attendre à ce que on est du good et du bad Jameis. Tu sais, c'est inévitable avec lui. Ce sera pas une saison là, tout en douceur. Donc, contre Bill Belichick, j'ai tendance plus à faire confiance au volet défensif des Patriots qu'à l'attaque de Sean Payton. C'est un bon duel, mais je vois les Patriots vainqueurs chez eux.
OK, un autre bon duel, là, on en a parlé tout à l'heure, Aaron Rodgers qui s'en va en Floride, en Californie après un bon match. Est-ce que Jimmy Garoppolo va essayer de monter son niveau de jeu pour qu'on ait un duel de carrière?
Oui, c'est sûr qu'il va essayer. Est-ce qu'il va être en mesure de le faire? C'est ça qui est le gros questionnement. Du côté des Packers, ça a été mieux en deuxième demi face aux Lions, mais j'aime vraiment, vraiment pas le début de saison défensif des Packers. On dirait qu'ils concèdent beaucoup, beaucoup de choses, autant au sol qu'au niveau aérien. D'ailleurs, je pense qu'ils sont dans les pires défensives présentement de la NFL.
Ouais.
Puis, au niveau talent, ils ont beaucoup de talent défensivement. Là.
Donc, il y a Darius Smith qui leur manque actuellement. Là. C'est un gros morceau. Là.
Mais de là à expliquer, c'est pas normal ce qui se passe présentement. Puis des fois, faut pas sous-estimer. Quand tu changes de coordinateur, des fois, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est ce qui est arrivé avec les Packers. C'est pas facile. Moi, je pense que ça va être difficile encore dans ce match-là. J'ai les Niners qui gagnent à domicile. Je pense qu'ils vont être en mesure d'exploiter la défensive des Packers. Et je pense que les Packers défensivement, ils vont être en mesure juste de déranger assez Rodgers pour se sauver avec le match.
Steph?
Ouais, ben là, faut se chicaner un peu des fois, hein, parce qu'on a beaucoup de choix qui sont identiques cette semaine.
Mais cette semaine, j'avoue que c'est quand même évident. Ouais. Il y a pas.
Il y a quelques matchs vraiment imprévisibles, comme celui-là, c'en est un. Là. Moi, je penche d'un côté comme de l'autre depuis le début de la semaine sur ce match-là. Je vais y aller avec les Packers. Ça m'inquiète quand même, parce que tu regardes leurs 5 derniers matchs sur la côte ouest, les Packers, 1 victoire, 4 défaites. Il y a quelque chose de croche qui se passe là-bas à chaque fois. Mais en ce moment, j'aime pas, là, comme j'en parlais tantôt, les blessures du côté des Niners. Souvent, les matchs contre les Packers, ils ont réussi à leur piler d'en face au sol. Ça va être difficilement le cas cette semaine. Puis si tu donnes le match entre les mains de Jimmy Garoppolo, je suis pas convaincu qu'il peut livrer un duel point pour point avec Aaron Rodgers et son attaque. Il y a la tertiaire aussi des Niners qui m'inquiète, tu sais, avec la perte du demi de coin Jason Verrett. J'y vais avec les Packers, mais ça va prendre de quoi de plus convaincant. T'sais, même malgré la victoire contre les Lions, la machine a mis du temps à se mettre en marche. T'sais, ils perdaient à la demi. Ça va prendre encore plus là, que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. J'y vais avec les Packers, je suis pas forcément en grande confiance.
Ça va être serré, ça, c'est sûr.
OK, les Bucks contre les Rams, ça, c'est le match de la fin de semaine.
C'est le match.
Matthew Stafford, qui est toujours invaincu, c'est quand même drôle de dire ça, mais c'est le cas.
Ben, tu sais, il fallait quand même s'attendre à un bon début de saison avec les Rams. Là. C'est pas une surprise comme telle qu'ils soient invaincus. C'est la chimie qui est en train de développer avec Cooper Kupp. Là. C'est quelque chose à voir là, sur le terrain. C'est de toute beauté. T'sais, ça a toujours été assez partagé entre Kupp et Robert Woods du côté des Rams. Mais là, Cooper Kupp est en train de s'élever là, vraiment à un niveau spectaculaire de production jusqu'à maintenant. Les Buccaneers, c'est quand même pas des tout nus. Là. Leurs 9 derniers matchs, 30 points et plus, puis des victoires. Là. C'est un rouleau compresseur en ce moment, les Buccaneers. La chimie opère avec tous les nombreux receveurs, les nombreuses armes de Tom Brady. Là où ça fait peur du côté des Bucs, c'est que les Rams, est-ce qu'il y a une meilleure équipe dans la NFL pour appliquer la pression de l'intérieur, tu sais, avec Aaron Donald notamment? Ça risque d'être difficile de ce côté-là parce que ce qui dérange Brady par-dessus tout, c'est quand la pression vient par en dedans. D'ailleurs, les Rams avaient fait mal l'an passé à Tom Brady. Ils avaient connu un de ses matchs les plus difficiles de la saison, en route vers le Super Bowl quand même, mais ça avait été un match très difficile contre les Rams. Je m'attends à un scénario à peu près comme ça, surtout que les Rams ont une attaque plus productive que par les années passées avec Stafford. Puis les Bucs, jusqu'à maintenant, l'élément qui est décevant de leur saison, là, s'il y en a un, malgré leur fiche de 2-0, c'est qu'ils donnent 27 points par match. C'est trop. Contre les Rams, ça va pas le faire, donc je prédis une victoire des Rams.
Moi, j'ai une victoire des Rams, les gars, mais en playoff contre les Bucs. Donc, je ne sais pas victorieux. J'ai l'impression que les...
Toi, t'as le match retour.
Ouais, exact. Le match retour des Rams. Le premier match, il est là, il est présentement. J'ai les Bucks qui vont aller gagner dans un endroit hostile. Ben, je sais pas si on peut dire.
Wow, c'est pas hostile, Los Angeles.
Exact. Dans un c'est endroit...
probablement un des pires stades locaux dans la Ligue. Encore pire pour les Chargers, là, remarque. Là.
Ouais, c'est le nouveau stade aussi. On va leur donner une petite chance. Là. Ouais. Mais de toute façon, le point n'est pas là. Pour moi, Tom Brady est en plein contrôle d'une attaque. C'est exactement ce qu'elle fait. J'aime pas le début de saison défensif des Rams. Je l'ai mentionné à première semaine. J'ai pas aimé non plus ce que j'ai vu face aux Colts. Ils ont été bons dans la zone payante, mais quand tu affrontes Tom Brady, si l'attaque se rend là trop facilement, Tom Brady fera pas les mêmes erreurs que Carson Wentz, surtout à l'approche de la zone début. Je pense qu'ils vont faire payer les Rams à chaque fois qu'ils vont se présenter là. J'ai les Rams dans un match assez offensif. Mais est-ce que j'ai les Bucks dans un match assez offensif? 33-27, victoire des Buccaneers.
Le corps arrière qui a le plus de verges par la voie des airs depuis le début de la saison, c'est qui, les gars?
Est-ce que c'est Brady? Non, je sais pas.
Ce sera le corps arrière qui affrontera les Dolphins de Miami en fin de semaine à Derek Carr. Las Vegas. Exact. Ah. Qui était peut-être un early MVP candidate. Est-ce que les Dolphins vont réussir à... C'est Derek Carr, il y a tout un début de saison. Son leadership, ses passes, franchement, c'est beau à voir. Est-ce que les Dolphins ont quelque chose pour l'arrêter à part Xavier Howard puis Byron Jones?
Ouais, puis ce que j'aime de Carr jusqu'à... ben depuis, en fait, l'an passé, là, ça se continue cette année. Tu sais, Jean parlait du système de Gruden, les passes décochées rapidement, on perd pas trop de temps. Oui, mais il hésite plus à tenter la bombe quand c'est nécessaire. On l'a vu avec Ruggs en fin de match la semaine passée. Ça, c'est un aspect du jeu de Derek Carr qui faisait défaut depuis le début de sa carrière, mais depuis l'an passé, là, c'est beaucoup mieux. Ça permet de garder les défensives beaucoup plus sur les talons, disons. Du côté de Miami, ben la grande question, c'est Tua. Est-ce qu'il va être en uniforme? S'il est en uniforme, dans quel pourcentage de ses capacités? Parce que là, il y a un danger du côté de Tua, c'est... Écoute, moi, mon poste est en jeu. Faut que je me prouve cette année hors de tout doute. Sinon, ils s'en vont chercher Deshaun Watson ou un autre. Est-ce qu'il va revenir trop vite? Qu'on va précipiter son retour dans l'action? Puis les Dolphins qui veulent aussi l'évaluer, ils veulent voir vraiment ce qu'ils ont sous la main pour savoir est-ce qu'on s'en va vers une autre avenue ou pas. Il y a un danger de ce côté-là. Fait que je sais pas trop comment il va être, tu vois, s'il sera là, s'il sera pas là.
On parlait de Pro Football Focus tantôt, là. Il y a trois joueurs de la ligne offensive des Dolphins qui ont eu une cote autour de 30.
Ouf. Ouais, puis là, tu vois, il parle de remodeler encore une fois, ouais, changer des joueurs de position. Tu sais, quand tu changes tes combinaisons jusqu'à temps que tu trouves la bonne, là,
c'est au frais du QB.
C'est pas forcément l'idéal. Puis les Raiders, on parle de Carr, ils appliquent la pression vraiment de façon soutenue cette année. Ça, je m'attendais pas à ça d'eux. Tu sais, il avait été chercher Yannick Ngakoue, oui. Mais là, c'est vraiment l'éclosion spectaculaire de Max Crosby qui fait en sorte que cette équipe-là en défensive est plus menaçante que par le passé. J'y vais avec une victoire des Raiders.
Max Crosby est tout simplement un homme en mission, les gars. C'est aussi simple que ça. J'ai les Raiders également. Je trouve que les Dolphins ont beaucoup à... Ça va être... La tâche est ardue. Tu sais pas ton carrière, c'est un point de question. Ben, c'est un point d'interrogation. Faut que tu ailles un match à peu près parfait défensivement. Il n'y a rien qui indique ça. Tu affrontes présentement la meilleure attaque de la NFL.
À domicile.
Voyage. Ça va être. En tout cas, la tâche est très, très difficile. Je vais prendre les Raiders dans ce match.
Les Vikings, Steph, est-ce que les Seahawks peuvent en perdre deux de suite?
Ben, les Vikings jouent beaucoup mieux à la maison que sur la route. Ils retrouvent leurs partisans. Là. Ça peut aider, c'est sûr. Puis il arrive toujours de quoi de bizarre hein, dans les matchs des Seahawks. Là. On s'attend qu'ils gagnent, ils perdent. On s'attend qu'ils... Tu sais, il arrive toujours quelque chose de pas normal. Par contre, la défensive des Vikings est tellement fragile contre le long jeu cette année. Ils se sont fait dépecer là, par les Cards, des bombes à répétition. Joe Burrow à la semaine 1 aussi, qui avait rejoint Ja'Marr Chase sur une bombe, sont incapables en ce moment d'arrêter le long jeu. Puis c'est quoi le pain et le beurre de Russell Wilson? C'est la bombe. C'est probablement le meilleur passeur en profondeur actuellement dans la NFL. j'ai pas le choix là d'y aller avec Seattle. Le seul point qui me ferait pencher en faveur des Mauves, c'est le fait qu'ils jouent à la maison. Là, premier match local cette année. L'ambiance va être certainement là surchauffée, mais je pense pas que ça va être assez pour venir à
Seattle. Mais c'est moi ou Kirk Cousins, selon ses stats, j'ai pas vu beaucoup j'ai pas vu beaucoup jouer, mais un très bon début de saison. Là.
Ben tu regardes, la semaine passée, il a été extraordinaire en première demi, 3 passes de toucher, puis le reste du match très tranquille. Tu sais, c'est souvent ça. Il y a pas l'instinct du tueur. C'est clairement pas la défaite sur ses épaules la semaine passée. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais on pensait que les Vikings s'enlignaient pour un match de 40 quelques points là après la demi. Je pense qu'ils menaient 27, puis ils faisaient tout ce qu'ils voulaient là, du côté aérien. Puis tout à coup, ben ça a été beaucoup plus tranquille. C'est sûr qu'on a couru plus avec le ballon en deuxième demi, ce qui n'était pas une mauvaise stratégie comme telle, mais lorsqu'il a été le temps d'aller chercher des gros troisième essais, Kirk Cousins, pas forcément. Donc,
okay.
Kirk Cousins, statistiquement, a toujours été un très bon corps arrière, mais c'est dans les grands moments, des fois, là, qui oublie de se présenter.
OK, Jean, rapidement là-dessus.
Moi, j'ai les Vikings qui vont battre les Seahawks. Je vous l'ai dit, les Seahawks, j'ai pas confiance en ce club-là défensivement. Je trouve que c'est un club qui est facile à exploiter. Tu sais ce qu'ils jouent tout le temps. Cover two. Ils ont pas de grands athlètes en défensive. Puis je pense que les Vikings ont une excellente attaque. J'ai l'impression que ça risque d'être un après-midi de travail difficile défensivement pour les Seahawks. Oui, Russell Wilson est là. L'attaque est là. Mais j'ai l'impression que les Vikings vont en faire plus. Victoire des Mauves face aux Seahawks.
Un Monday Night classique, Eagles contre les Cowboys.
Ouais, la fameuse bonne vieille rivalité entre les deux équipes. C'est assez difficile à prévoir parce que moi, les Eagles m'ont quand même surpris là, depuis le début de la saison. Tu sais, ils ont été chercher une victoire à la première semaine, c'est sûr que c'était contre les Falcons. Mais ils ont chauffé les 49ers la semaine passée. Là. Ça n'a pas été facile du tout pour San Francisco. Montre quand même des choses intéressantes. Cela dit, les Cowboys jouent encore mieux. T'sais, ils ont failli battre les Buccaneers. Ils ont été chercher une grosse victoire contre les Chargers. Je vais les favoriser, mais il arrive toutes sortes de choses dans cette rivalité-là. Je serais pas surpris d'un côté comme de l'autre. Victoire Cowboys, là, je pense qu'ils vont se démarquer du côté aérien contre la tertiaire des Eagles.
Ouais, j'ai longtemps réfléchi également sur ce match-là au Monday Night, mais oui. je vais y aller avec les Cowboys.
Les Eagles, ils montrent rien à l'attaque là, depuis deux matchs quand même. Là.
Ben c'est pas vrai. Là. Le premier match, ils ont dépassé les Falcons, mais c'était les Falcons.
Ouais, mais
ça a été un peu plus difficile contre les Niners, mais Jalen Hurts a pas mal fait non plus.
Non.
Donc c'est ça. Puis les Cowboys, c'est pas comme si c'était une machine défensive là. On va se le dire, là, c'est une défensive très tranquille.
Amochée aussi.
Aussi amochée. Donc, c'est ça. Ça risque d'être un peu plus difficile que peut-être tu risques de le penser initialement. Mais j'ai les Cowboys quand même qui vont en faire assez offensivement. Offensivement, ils sont vraiment tannants, les Cowboys.
Merci, les gars. Restez là. Après, c'est au bar qu'on se retrouve. I got a hangover. Whoa. I've been drinking too much for sure. Et c'est le moment de se rendre au bar pour rencontrer ceux et celles, c'est souvent des gars, parce que on fait pas dans l'équité ici, à la zone payante, qui se retrouvent au bar avec le bonnet d'âne. Qui se retrouve au bar, les gars, cette semaine? Steph. On va commencer avec Steph.
Ben, de mon côté, j'ai pas même le choix là, d'envoyer Clyde Edwards-Helaire, le porteur de ballon des Chiefs, au bar. L'échappée en fin de match qui a coulé les Chiefs carrément. Puis, écoute, dans une situation comme celle-là, tu ne demandes pas grand-chose à ton porteur de ballon. Là. Ton équipe est en train de remonter le terrain de façon fulgurante, comme Patrick Mahomes le fait tellement souvent depuis le début de sa jeune carrière. Tout ce que tu dis à ton porteur de ballon, c'est « va nous chercher 2-3 verges, tiens ton ballon à 2 mains ». Mais non, il l'a échappé. Ça a coûté le match finalement aux Chiefs. Puis, il y a ça. Mais l'autre chose, c'est qu'il va falloir à un moment donné que ce joueur-là ait plus d'impact dans une attaque comme celle des Chiefs. T'sais, rappelez-vous, quand on a été le chercher en première ronde il y a 2 ans, ça venait compléter le casse-tête. Là. Ça ajoutait une arme nucléaire à l'attaque des Chiefs. Puis depuis ce temps-là, ben il y a seulement 2 matchs de plus de 100 verges au sol. son tout premier dans la NFL. Là, je me rappelle, on était sur le dos, tout le monde, on se disait « Wow, avec cet ajout-là, l'attaque des Chiefs va être invincible. » Depuis ce temps-là, un seul autre match de 100 verges. Puis 10 fois au cours de sa jeune carrière, il y a eu une moyenne qui n'était pas supérieure à 4 verges par course. Tu sais, c'est pas à date un joueur d'impact comme on l'attendait pour un choix de première ronde. Je pense qu'il est grand temps qu'il contribue davantage pour le fumble surtout, mais en partie pour l'ensemble de son œuvre jusqu'à maintenant. Il va être condamné au bar à boire. Ça va être une dégustation de vin de dépanneur, tu sais. On n'a jamais fait ça, là. Ça sera original. Je sais pas, moi, du Notre Vin Maison, du Nicolas Laloux,
du
un peu d'Arfan des Neiges. S'il y en a qui peut-être qui peuvent en trouver encore du Arfan des Neiges. Là.
Oui.
Dégustation de vin de dépanneur jusqu'à temps qu'il ait compris un peu là, qu'il
faut faire
plus.
Parfait pour ceux qui aiment le pétillant.
Et voilà.
Un petit octalaire. OK, Jean. Toi, qui c'est que tu en vas déguster un drink de ton choix au bar?
Ben écoute, il y avait une grande quantité de candidats là, honnêtement, au bord. J'ai évidemment là, il y aurait eu c'est Dexter Lawrence qui a été hors jeu là pour les Giants, mais c'est trop facile. Je vais y aller avec un choix plus difficile. Même s'il a gagné, j'envoie McCarthy, l'entraîneur-chef des Cowboys, au bord pour sa gestion horrible. Du dernier 30 secondes du match face aux Chargers. C'est 17-17. Il y a un temps d'arrêt qui lui reste. Puis lui, il a... Évidemment, le jeu venait de finir, donc le temps s'écoulait. Il aurait pu appeler son temps d'arrêt là puis essayer de s'approcher. Il aurait pu faire un jeu tout de suite puis s'approcher, prendre son temps d'arrêt. Il a rien fait. Puis tu peux pas me dire... Oh, on était dans la zone de placement. On parle d'un placement de 56 verges pour gagner. Là.
Dans la NFL,
c'est pas la zone de placement. Ouais. Là. C'est Greg Delegue qui a gagné le match à lui tout seul. Il était pas dans un endroit où ce que tu pouvais dire, bah, on va arrêter là puis on va essayer de gagner avec un placement de 56 verges. Ça ne fait aucun sens. Lui, comme explication, il a dit que bon, écoute, c'est l'horloge qui a arrêté, qui regardait. Écoute, il y en a 68 des horloges là. Si celle que tu regardais était pas là, il y en a d'autres qui fonctionnaient là. Je veux dire, je peux pas croire que c'est ça. T'es entraîneur-chef, t'es payé pour gérer comme il faut ces situations là. Puis honnêtement, il a été horrible. En plus, lui, il a dit au début, quand il a été engagé, que les stats avancées, il se baserait beaucoup là-dessus pour prendre les bonnes décisions. Honnêtement, j'ai regardé, mais il n'y a aucune stats avancée qui dit que tu n'avances pas le ballon pour prendre un long placement. Là.
Non, c'est sûr.
Ça fait aucun sens. Fait que juste pour ça, je te condamne à prendre des espresso martini, 2 onces de liqueur de café, 1 once de vodka, puis 3 onces d'espresso refroidi. Ça va réveiller un peu McCarthy. Ça va le réveiller. Je veux pas lui donner du vodka Red Bull parce que j'ai peur pour son cœur. C'est pas le gars le plus en forme, McCarthy. Là. Fait que juste, on va rester avec l'espresso martini jusqu'à temps qu'il se réveille assez pour prendre les bonnes décisions. Puis dans le match contre Tampa Bay aussi, la première semaine, ses décisions en fin de match avaient été horribles aussi. Également. Donc, Mike McCarthy, au bar solide.
Ben, moi, je vais envoyer...
Toujours des cocktails originaux, Jean. J'ai hâte d'aller au bar avec toi un jour.
Ah, ouais, ça va me faire plaisir.
Ben, moi, je vais envoyer les gars Hollywood Brown quand même au bar. Là. C'est pas à cause qu'il a fait 6 catch puis 113 verges puis un gros touché avec une jump pass de Lamar Jackson.
Juste que tu t'en vas.
Juste parce que Hollywood Brown, il a invité ses 2 blondes au match.
Oh!
Pauvre gars, j'espère qu'il pensait quand même pas s'en tirer sans que ça sorte. Là. Alors là, il a supposément, c'est une rumeur, mais qu'il a invité donc les 2 filles, ces 2 lapins. Vous savez ce qui arrive hein, quand on court 2 lapins en même temps, les gars? On les passe.
Ben lui, dans son cas, il pensait vraiment les attraper les 2. Là.
Ouais, je vais y envoyer prendre une bière tout seul au bout du bord là, pour qu'il pense à ses affaires, là, puis qu'il ait, la prochaine fois, là, qu'il choisisse un lapin. Puis qu'il soit sûr de le pogner.
OK. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut toujours demander un peu de mentorat à son cousin, qui est Antonio Brown.
Ah! Oh, excellent! Ça, Jean, j'adore ça. Tu finis très bien notre émission de cette semaine. Merci à vous deux. Bon dimanche et bonne fin de semaine et bonne semaine de football. Merci aux auditeurs d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!